pareil, chasseur oriental. J'ai réussi totalement cette question.
Moi, j'ai essayé de combattre au plus d'engage. En combinant les deux, ben, j'ai essayé de maîtriser sans trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Dans certaines églises indépendantes dites de réveil, ainsi que dans les différentes ONGD et autres organisations sociales en République démocratique du Congo, le choix du successeur, du responsable titulaire ou représentant légal en cas de maladie ou décès ne fait toujours pas l'unanimité. Lorsque le choix se fait notamment des pères en fils ou des maris à épouse, cela ne favorise pas la paix sociale dans ces ASBL. Ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent à travers le pays. Quel regard portez-vous sur ces faits de société observés ces derniers temps à travers le pays? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocafé.net ou bien nous appeler au 081 890 7315 pour participer en direct à ce débat citoyen. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie à l'ingol et c'est à la technique. Julie César Bongonda et Piero et la Meji réalisent ce programme coordonné et présenté par J.R. Lugembo sous la supervision de Leonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Les trois aspects qui seront abordés au cours de cette thématique, à savoir les églises, les ONGD et autres organisations sociales, nous avons invité pour vous, d'abord pour ce qui concerne les églises, le docteur Abraham Greing, ainsi que nous allons recevoir d'un moment à l'autre, et puis tout viendra autour de Gauthier Moussengue Mwanda, qui est sociopolitologue, et qui nous expliquera un peu d'autres aspects par rapport à cette question, et nous terminerons par le professeur Ndita, qui est un autre pasteur qui aussi abordera d'autres questions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous retrouvons notre invité, Dr Ngalassi Agrey, qui est le représentant légal du RCC, le renouveau charismatique au Congo, et représentant légal de l'église de la Louange. Dr Ngalassi, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons assisté ces derniers temps à plusieurs schismes, si on peut appeler ainsi, des débats ça et là dans certaines églises. Alors, quel regard portez-vous sur ces faits des sociétés observés ces derniers temps à travers le pays?
En fait, ce n'est pas un fait qui n'est pas courant. Le fait, il est courant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque église, chaque organisation arrive à un moment donné, lorsqu'elle croit, lorsqu'elle se développe, il y a très souvent des questions. Pourquoi? Parce que le début d'une organisation, le début d'une église, est fait de ce que nous appelons d'abnégation. Les gens s'abonnent, le travail commence, le travail est en train de grandir. Lorsque ce travail se développe, les gens très souvent changent de cœur et commencent à regarder, à considérer leurs propres intérêts. Et c'est à ce moment-là que la tendance au schisme commence. Mais il faudra savoir aussi que la Bible dit lorsque un arbre a commencé à pousser, pour que l'arbre pousse et aille plus haut, plus loin, on va l'émonder. Le Seigneur permet de commencer à couper ce qui n'est pas bon pour que l'arbre pousse et aille plus loin. Donc, le schisme pour toute organisation, lorsque cette organisation prend de la fleur, eh bien, l'arbre doit être secoué pour que ce qui n'est pas bon puisse partir et que l'arbre puisse grandir.
Oui, mais donc,
c'est un problème. Oui.
Oui, mais aujourd'hui, en toile de fond de conflits, c'est lorsque le choix du successeur, d'un responsable titulaire ou encore le représentant légal se fait notamment des pères en fils ou des maris à épouse. Cela est loin de favoriser la paix sociale dans ces asbels.
Oui, vous avez absolument raison. Mais il faudra que les gens considèrent des asbels vrais, une succession préparée vraie, et très souvent dans nos églises, cela n'est pas préparé. Cela n'est pas du tout préparé. Et ça crée des problèmes d'hommes, des divisions, des rancœurs, etc. Mais il faut tenir compte de la volonté de Dieu en cela. Parce que l'Église n'est pas une autre organisation en quelconque. L'Église a une tête, l'Église aura une succession, et cette succession peut être contestée au début pour certains, mais cela sera confirmé parce qu'il y a la main de Dieu là-dessus. C'est pas très facile. Vous savez que nos jeunes églises, et c'est pas comme des églises traditionnelles où il y a eu un programme, des élections, etc. Où chacun peut poser sa candidature pour aspirer, n'est-ce pas, à une succession. Les jeunes églises ont encore du chemin à faire. Et on peut passer de père en fils, du leader au frère, etc. Parce que le mental, la façon de concevoir peut être différent. Mais il faudra aussi que les gens acceptent ce que c'est que le ministère et l'appel des uns et des autres.
Oui, docteur,
c'est un problème complexe.
Oui, docteur, on sait que la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 porte sur les dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Alors, les églises font partie aussi des ASBL. Y a-t-il, pour éviter, pour améliorer ou encore pour résoudre cet épineux problème, pour certains, donc, il faut qu'on propose une loi pour régenter, au fait, le fonctionnement des églises. Est-ce que vous partagez cet avis?
Bon,
il faut une loi spécifique.
C'est une possibilité. On doit absolument créer la paix, ça c'est la loi. La loi qui donne cette ouverture, ou plutôt cette possibilité, cela est vrai. Cela est vrai. Je crois que, mais néanmoins, ce n'est pas conforme dans tous les cas. Parce que Dieu peut, dans certaines églises, désigner des successeurs ou un successeur. Mais la loi, elle passe par des élections. Une façon de faire une candidature qui est aussi possible. Parce que dans certaines communautés, dans certaines églises, le choix peut se faire sous ce parti modèle-là. Donc le Seigneur permet qu'on aussi ait quelqu'un choisi.
Oui, parce que si nous restons dans la logique qu'il s'agit là d'une ASBL, nous savons que cette loi de 2001 dispose dans son article 11, je crois, tout changement survenu dans les personnels chargés de l'administration ou de la direction doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Non, je ne peux pas dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens respectent la loi. On ne peut rien faire sans passer par l'Assemblée. C'est conforme à la loi. On ne peut rien faire si cette Assemblée qui est élective, qui oriente, ne signe pas. Tout le monde signe, c'est la loi. La loi, elle est respectée dans ce cas-là. Et elle doit être respectée si vous vous adressez aux instances supérieures de l'État, vous ne pouvez passer que par là. Absolument.
Mmh.
C'est ce que moi je reconnais.
Oui. Alors, à une certaine époque, le président maréchal Mobutu avait même donné des conditions requises pour être fondateur d'une église ou encore succéder à ce fondateur. Mais aujourd'hui, c'est vrai, nous prenons juste les cas, par exemple, de l'âge, la conditionnalité relative à l'âge, âge d'au moins 40 ans. Voilà, cela n'est pas respecté.
Bon, vous savez, tout ne se ressemble pas. Et le problème d'âge, c'est pas simplement le problème d'âge. Si je parle du problème d'âge, ça peut s'étendre partout, à tous les niveaux. Parce que c'est la loi. Et cette loi peut toucher tous les niveaux. Mais nous savons que c'est ça l'esprit. Et si je suis en bonne santé, et là, le médecin délivre un document qui explique, qui certifie que la personne est en très bonne santé. Et il n'y a pas que ça, il y a le niveau de connaissance théologique. Il y a un minimum qui hier cela a été accepté, mais aujourd'hui, il y a vraiment des exigences. Donc il y a des règles qui sont tout à fait requises pour permettre à une personne d'être au niveau d'un leader encadrant toute une communauté. Ça, c'est très important.
Alors donc, il y a à croire vos propos, il y a possibilité de pouvoir, en fait, changer toutes ces frictions sociales qu'on enregistre par rapport à la désignation, par rapport au choix du successeur. Donc il y a possibilité aujourd'hui, si jamais tout le monde comprenait l'esprit dans lequel il évolue.
Oui, c'est très bien pour qu'il y ait d'abord la paix sociale, pour que l'on soit conforme à l'État. Parce que je voudrais vous dire que le Seigneur contrôle tout, même si on passe par des voies, des élections conformément à l'État. Le Seigneur a le contrôle sur toutes choses. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir se cacher sous une certaine forme. Même si c'est Dieu qui a dit, mais dans l'autre forme des élections, Dieu aussi conduira les choses de la même façon.
Voilà, merci beaucoup.
Va créer la paix.
Voilà, merci beaucoup, docteur Galassa. On va vous retenir juste avant. On sait que vous avez pas mal d'occupations. On va prendre juste deux auditeurs et puis vous allez réagir. On pourra vous libérer. Galvani, vous êtes en Bougimaï. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour à tous.
Vous avez la parole, Galvani.
Merci beaucoup pour la parole. Oui, d'accord. Merci. D'abord, cette problématique a plusieurs causes. Je vais prendre un peu de citer quelques-unes. La première cause, d'abord, c'est la conception, d'abord, de la personne. Disons, en Afrique, on a tendance plus à recourir à la famille, d'une manière générale. Ce qui fait que, on recourt à la famille, donc tout ce que nous faisons, tout autour de la famille. Donc, les fondateurs de l'église, peut-être le père, et aussi, ou lorsqu'il veut céder la main, il a tendance à passer soit à sa femme ou soit à ses enfants. Ce qui cause un peu le problème là, donc c'est un problème vraiment très général et culturel. Donc, il dépend de la conception et aussi de la personnification. Parce que nous remarquons bien que toutes les organisations d'aujourd'hui, que ce soit les églises, que ce soit les ONG, ont tendance d'une manière où on veut personnaliser la personnification des organisations vers le fondateur. Et c'est lui qui décide tout. Au lieu que cette organisation puisse tourner autour des idéaux ou des idéologies ou des idées et des objectifs qui se sont assignés, mais tout tourne autour de la personne qui a eu l'idée de fonder ça. C'est un peu de problème. Mais pour mettre ça à ces désordres, bon, bien sûr, avant, toute organisation reste belle, doit avoir un statut. Et dans ces statuts, on doit signifier quelles sont les conditions de succession. Parce que malheureusement, nous voyons que ce soit dans une église, pour se réaliser, il faut que le fondateur puisse mourir. Ou soit le fondateur même de l'ONG ou d'une association quelconque puisse mourir. Or, normalement, dans les statuts, tout était spécifié avant, donc je ne crois pas qu'il y aura de sérieux problèmes. Donc les bonnes causes sont d'abord les causes culturelles, qui sont dues vraiment à l'Afrique. On a toujours tendance à recourir à la famille. Et aussi, deuxièmement, aussi la personnalisation de l'organisation au lieu de construire les idées, mais on a toujours tendance à personnaliser l'organisation par rapport au fondateur.
Merci beaucoup, Galvani. Vous avez évoqué là les causes qui font qu'aujourd'hui, le choix du successeur, du responsable titulaire ou représentant légal, en cas de disponibilité, ne puisse pas faire l'unanimité. Vous avez évoqué l'aspect culturel. En tout cas, en Afrique, il est de plus en plus fréquent qu'on remarque que les gens sont beaucoup plus liés à des traditions ou à des us et coutumes, ce qui font que, on a du mal à pouvoir, disons, laisser les choses fonctionner telles que la loi les régente. Et également, cet aspect de pouvoir personnaliser les organisations, que ce soit les églises ou encore les ONGD, et pourquoi pas d'autres organisations sociales. Donc, pour améliorer, il faut simplement changer cette façon de faire, ou pourquoi pas proposer une loi spécifique par rapport à ça. Merci beaucoup, Galvani. Franck, vous êtes à Paris. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à les invités et aux amis avec qui nous allons nous échanger.
Vous avez la parole, Franck.
Je t'en prie, merci beaucoup. Par rapport au sujet que vous avez soumis au débat, je crois que c'est d'abord question de perception, puis de statut de l'organisation ou de l'association. Puis je crois qu'il faut aussi rappeler le fait que ce n'est pas seulement au sein de certaines ONGD ou églises, comme annoncé, mais même au sein des partis politiques, au sein de certaines entreprises, au sein de certaines associations, ayant des structures de chaînes de commandement, les questions de succession sont souvent réglées et orientées selon certains critères. Donc il y a des critères socio-héréditaires, il y a des critères généalogiques, il y a des critères tribaux qui tendent aussi souvent vers le régionalisme, l'ethnocentrisme, ainsi de suite. Puis, le problème qui se pose là, c'est un peu ambivalent. Si la personne a qui ce pouvoir ou transfert de compétences est confié, a des capacités requises, le problème ne se poserait pas tellement, en dépit de certaines insatisfactions, frustrations qui peuvent aussi se faire constater de part et d'autre. Mais si la personne à qui cette charge est confiée ne le mérite pas, c'est ce qu'il faut dénoncer comme limite, comme vice de procédure et aussi à anti-valeur. Et puis, dans la plupart des situations chez nous, il y a des organisations qui fonctionnent avec un statut, mais souvent le statut est interprété selon l'intention de celui qui est à la tête. Je crois que quand on doit seulement dire qu'au niveau de l'Afrique, c'est un peu trop dur parce que ici en France, par exemple, le parti PN, de Le Pen, pour le moment, c'est Sachi qui est un peu à la tête des choses, quoi. Donc, c'est un peu une attitude liée à l'humain. Donc, il y a des hommes qui n'arrivent pas à se dépasser un peu de ce clivage-là. Mais évidemment, chez nous, il y a encore la famille qui vient souvent en première position. Si pas la famille, c'est pas seulement la famille biologique, ça peut être la famille élargie, la famille étendue, un peu comme ça. Alors, si le pouvoir ne se transmet pas de père en fils, ça peut aussi se transmettre de l'oncle au neveu, de l'oncle à la nièce, de la tante à la nièce, de la tante au neveu, selon que celui qui veut partir cherche un peu à jouer sa carte pour que il maintient toujours un certain pôle d'influence. Mmh. Évidemment, si au sein de l'organisation, il y a des gens qui ont plus de compétences, de potentialités pour faire mieux que celui qu'on suggère au niveau de la famille du chef qui va sortir, c'est là où ça blesse. Et dans la plupart des cas, les statuts de certaines associations chez nous sont vraiment orientés pour ne répondre qu'au profit d'un groupe d'individus, au profit de tel monsieur. Je crois que c'est un problème qui concerne aussi beaucoup de monarchies. Là aussi, les questions de succession sont déjà réglées de manière historique. Ça part de telle personne à telle personne, c'est vraiment dans l'arbre généalogique. Mais évidemment, si c'est une association sans duplicatif, avec un statut qui fonctionne, avec un statut juridique, mais là, on devrait aussi tenir compte d'un certain nombre de critères.
Oui, mais Franck, mais ce qui est plus étonnant, c'est ce phénomène est beaucoup plus criant dans les églises, dans le fonctionnement des églises aujourd'hui. On a tendance maintenant que tous les représentants légaux commencent à porter leur choix sur leurs enfants.
Oui, la progéniture, je crois que là, en tout cas, quand nous parlons des églises, on ne définit pas de quelle église est-il question.
Nous l'avons dit en début, c'est des églises. Oui, nous savons.
Église catholique protestante.
Oui, nous savons que l'église.
L'église appartenant à tel monsieur ou à telle femme. Parce
oui.
Que, au sein de l'église catholique, par exemple, vous le savez mieux que moi, ou nous le savons tous que les questions de succession sont déjà réglées à base.
Vous trois canaux.
De la structure ecclésiale. Donc, par exemple, pour les prêtres. Je verrais mal qu'un prêtre qui part d'une paroisse, un évêque qui part de son évêché, se fasse automatiquement remplacer par un membre de sa famille ou bien un pasteur de l'église protestante qui doit partir ou bien le revêque pour se faire remplacer par un membre de sa famille. Parce que là, il y a un certain nombre de critères à remplir pour faire partie de ce corps. Mais pour des églises qui sont considérées comme des asbènes, associations, là, ça devient comme un bien privé. C'est à ce niveau-là que les questions de succession devaient aussi être réglées. Et je crois qu'à ce niveau-là, les gens devaient aussi repenser encore les objectifs qui font qu'ils se font passer pour pasteur ou bien chef spirituel, avec ainsi de suite. Est-ce qu'ils travaillent d'abord pour eux-mêmes ou bien ils travaillent pour le peuple de Dieu?
Mais n'oubliez pas,
j'avais trouvé que le concept d'église pouvait porter à des confusions. De quelle église on fait exactement allusion ici?
Oui, nous l'avons dit au début.
Des églises de réveil ou bien on passe à toutes les églises que nous connaissons chez nous, églises catholiques, protestantes, et ainsi de suite.
Oui, nous l'avons dit en début, il s'agit bien de certaines églises indépendantes, dites des réveils, ainsi que de différentes ONG. Ouais. Parce qu'on sait que les trois canaux régent de tout, du côté des églises traditionnelles, vous l'avez cité, l'église catholique, l'église protestante, mais ailleurs, c'est déjà un problème. On peut encore comprendre, en tout cas selon certains observateurs, que ce soit au niveau des organisations non gouvernementales de développement, où les problèmes s'est parce qu'il y a tel qui a apporté l'idée, qui est en fait le fondateur, qui un jour se décide, voilà, par rapport au statut, de déléguer le pouvoir à un membre de sa famille. Mais à l'église, je crois que ce soit l'église des réveils, si jamais tout est régenté aussi par une loi spécifique, parce que ça fonctionne comme une asbel, mais elle ne doit pas suivre à 100% au fait des dispositions de fonctionnement des asbel, d'aucuns au fait plaident pour une loi spécifique. Est-ce que vous partagez cet avis?
Parce que dans la plupart des cas, c'est à partir de là que nous connaissons aussi beaucoup de conflits. Parce que ces églises-là sont, bon, je me permets ou je me suis sur le dire comme ça, c'est géré comme des biens privés. Donc, il y a des gens qui se permettent de le gérer comme bien privé, alors qu'une association, ça peut être créée par moi ou par toi, mais pas que cela concerne beaucoup de personnes. Donc, chacun devrait quand même aussi exercer le minimum de cette prérogative juridique. Alors, dans la plupart des cas, nous constatons que l'Église est créée avec un statut clair, mais maintenant, quand il s'agit de répartition, des questions de succession, c'est là où ça commence un peu à poser beaucoup de problèmes. Et si c'est une asbel, on ferait mieux de la soumettre à ce conditionnement juridique, proportionnel ou équilibré par rapport à la gestion des fonds.
Merci beaucoup, Franck.
Mais c'est toujours question de perception. On ne peut pas toujours généraliser, c'est question de perception.
C'est pourquoi nous avons dit dans certaines églises.
Il a quelle conviction, qu'est-ce qu'il vise et avec quelles toutes les personnes va-t-il travailler.
Merci beaucoup, donc, Franck, d'avoir appelé de Paris. Nous revenons à vous, docteur Galassi, à Agri. Vous avez suivi les intervenants de tout à l'heure. Comment vous réagissez, docteur?
Ok, je remercie notre frère qui est en France. Je crois que tout compte fait, il faut tenir compte de l'histoire d'une église, de comment cette église est née, par qui le Seigneur a utilisé pour que l'église existe aujourd'hui. Ça, on ne peut pas, n'est-ce pas, ne pas faire attention à cela. Une église véritable n'est pas comme une ONG. Et il y a toujours un leader, et le choix, après, solidaire, donc, de la succession, le Seigneur prendra tout le choix. Si l'Église est véritablement très spirituelle, le Seigneur trouvera une succession. L'Église n'est pas une affaire d'une tribu. Et le leader n'est pas un leader de tribu.
Voilà, on a des soucis avec la ligne de docteur.
Oui.
Oui, allez.
Oui, ouais. Je prends un exemple. Je suis très du kimbanguisme. Eh bien, qui a commencé le kimbanguisme n'avait pas à l'idée qu'il y aurait une fondation, une église qui se centrait sur autre chose. Mais lui-même, il était très spirituel. Ce sont ceux qui viennent après, qui transforment les choses, qui posent des problèmes. Mais la loi aussi, elle est là pour réglementer, pour diligenter les choses, afin que les choses... Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui un véritable problème d'organisation. Si quelqu'un a l'idée leader d'une église, il doit fonctionner organisationnellement comme une église, non pas comme un ministère qui est tout seul et contrôle tout seul. Ça devient un problème dessus. Et pour la succession, cela aura des problèmes. Et je crois que le successeur, généralement, il est préparé. Lorsque on désigne quelqu'un, quand vous lisez toute la Bible, nous savons qu'on sait déjà qui succédera à tel. Ça, c'est l'aspect spirituel. Et aujourd'hui, ces problèmes de sentiments, ces problèmes de tribus, ça devient une autre forme d'organisation qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu du début. eh bien, les églises sont en train de se détruire, de se transformer, parce que les hommes ont donné leur point de vue et ils n'ont pas interrogé Dieu pour savoir qui est valable selon Dieu.
Voilà. Donc,
que même les Vatican, eux, ils entrent en conclave pour savoir qui passera. Je crois que cet aspect des choses, réglementé par la loi, par l'État, doit trouver son fondement et son idéal dans ce qui est spirituel. N'empêche qu'aujourd'hui, on cite certaines églises qui sont un problème, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est un minimum d'églises. Mais d'autres, elles sont nombreuses, qui fonctionnent bien. Je crois qu'on ne peut pas prendre en considération un petit groupe, une minorité, je le dirais, par rapport à ce qui existe, qui est aussi grand. Je pense néanmoins que la problématique est vraie. Cette thématique est une très très bonne chose. On doit y réfléchir. On doit laisser le Seigneur conduire son église. C'est l'église de Dieu. Ce n'est ni l'église d'une tribu. Ce n'est ni l'église d'une famille.
Merci beaucoup, Dr Ngalassi Agrey, d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir accordé ce temps qui est si cher, hein, en tout cas pour vous, parce qu'en ce moment, vous êtes en pleine consultation des malades. Hein. En tout cas, merci beaucoup une fois encore, Dr Ngalassi, à très bientôt.
Merci, c'est le Seigneur, vous bénisse.
Voilà, nous revenons à Joséphine qui est à Boston. Joséphine, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Radio Kati.
Voilà, je l'ai dit tantôt, dans certaines églises indépendantes, dites de réveil, ainsi que dans les différentes ONGD et autres organisations sociales en République démocratique du Congo, le choix du successeur, du responsable titulaire ou représentant légal en cas de maladie ou décès ne fait toujours pas l'unanimité. Lorsque le choix se fait notamment des pères en fils ou des maris à épouse, cela ne favorise pas la paix sociale dans ces aspects. Alors, ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent à travers le pays. Quel regard portez-vous sur ces faits de société? Observer ces derniers temps.
Moi, je vais justement parler directement de ce que notre invité sur le plateau a dit. Et c'est ça même le nœud du problème. Quand il parle de la volonté de Dieu pour choisir les remplaçants, et ça devient un peu très compliqué. Qui connaît la volonté de Dieu dans une église qui a été créée par quelqu'un qui dit que Dieu l'a choisi? Ça, ce sont des mots, ça, ce sont des phrases qui reviennent toujours dans des églises de réveil, dans des organisations, qui poussent tous les jours ici au Congo. C'est quelqu'un qui s'est dit, ok, bon, il n'y a pas de travail, j'ai créé mon organisation. Cette organisation-là, la personne qui crée son organisation, il considère comme c'est un bien privé. Et ça sera difficile de passer à une autre personne, même si la personne est qualifiée. On va choisir seulement peut-être quelqu'un de sa famille.
De sa famille pour protéger le patrimoine.
D'une connaissance. Mais dans des églises, l'invité est en train de le dire. Sans pour autant le savoir. Le pasteur, s'il mourait aujourd'hui, vous allez voir que c'est sa femme qui remplace. Pourquoi? Parce qu'on va dire que c'est la volonté de Dieu. Dans ces églises de réveil, vous ne voyez pas le vote, vous ne voyez pas, on ne considère pas les diplômes les diplômes
d'études,
de sciences, I don't know, comment on dit ça. Alors, on dit seulement c'est la volonté de Dieu. Moi, je peux encore comparer avec les églises, les mêmes églises dans nos communautés congolaises, par exemple ici. Vous voyez quelqu'un commence son église, elle dit que Dieu m'a dit que, ok, je commence une église. Mais par rapport aux lois de ce pays-ci, la personne doit aller à la formation, à l'école. Alors, pour se former, pour être pasteur, tu dois avoir des diplômes pour être pasteur.
Oui, madame,
aller,
oui, madame.
Avoir les... l'islam.
Oui, madame Joséphine, il y a eu des conditions à une certaine époque, on avait imposé quand même à des églises, ces genres de conditions, il y avait, pour être fondateur d'une église, il fallait être de nationalité congolaise, avoir une conduite irréprochable, âgé d'au moins 40 ans, n'avoir jamais escompté une peine privative de liberté supérieure à 5 mois, disposer d'une licence, d'un doctorat ou d'un tout autre document attestant qu'on a suivi avec succès et pendant 4 ans un enseignement religieux dans un institut de théologie du pays ou de l'étranger. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Voilà, j'ai toujours dit, le problème de Congo, c'est le problème d'application de loi. Au Congo, il y a beaucoup de lois dans des tiroirs, il y a des pages et des pages de lois. Tout ce que vous venez de lire là, si on appliquait, mais tout va être vraiment clair. Tout va être clair, parce que moi, on attend toujours qu'il y a même des morts pour choisir la personne qui va remplacer le pasteur qui est mort ou quoi. Il y a des morts. Alors, toutes les lois là, ce que vous venez de lire, si l'État parvenait à appliquer ça sur les églises, mais il n'y aura plus de problème. Mais quand on laisse les églises à elles-mêmes, quand l'autre invité dit qu'il faut suivre la volonté des dieux, mais ça devient très, très compliqué. Ça devient très, très compliqué. Si vous m'avez laissé terminer mon...
Allez-y.
Il y a ici les mêmes le Congolais ici, il commence des églises, mais il y a quand même une organisation. Vous ne verrez pas que non, il y a la volonté des dieux. Avec les lois de l'État ici, pour être pasteur, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école, avoir les diplômes, fréquenter cette église-là pendant un certain temps. Et vous ne voyez pas souvent, c'est la femme qui remplace, ou bien c'est son petit frère, mais vous voyez quelqu'un d'autre qui est un peu compétent. Ce n'est pas fréquent comme au Congo, là vous voyez, non, les pasteurs sont morts, c'est sa femme qui remplace, il y a des problèmes dans les églises, il y a les autres qui vont encore aller créer d'autres.
Merci beaucoup madame Joséphine.
Vous voyez, quand nous on allait à l'école, on nous apprenait déjà à partir de l'école. Moi je me rappelle à notre, dans ma classe à l'école primaire, on faisait des fautes pour avoir le chef-tel de classe.
Voilà, la tradition a été transmise même à d'autres générations.
On n'accepte pas le vote.
Merci beaucoup, madame Joséphine. Je crois que déjà, on va rappeler à d'autres auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre qu'il faut appeler au 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons avec Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Maurice.
Bonjour à tous les auditeurs qui sont branchés à Radio Capi.
Quel est votre point de vue par rapport à la thématique du jour?
En fait, je peux commencer d'abord par regretter les départs du pasteur qui était en ligne. En fait, ma question, je voulais juste lui poser la question, comment se gère le patrimoine de son église? Et est-ce qu'il existe-t-il un texte légal qui règle en fait la question de la succession dans son église? En fait, c'était ma première préoccupation, mais j'en regrette qu'il soit parti avant mon intervention. Alors, pour parler en fait de... Il faut partir d'abord de la création. Les conditions dans lesquelles les asbels, en fait, ce que nous appelons asbels, en réalité, ce ne sont pas des asbels, parce qu'ils sont, en fait, à la recherche, en fait, du profit. Alors, des conditions dans lesquelles sont créées ces asbènes, notamment les églises dites des réveils, que moi je qualifie peut-être des églises en fait des non-alignées, parce que d'un côté il y a les églises structurelles, catholiques, protestants, timbanistes, orthodoxes, tout ce qu'on peut citer, et qui suivent quand même une certaine ligne, je ne sais pas comment qualifier, par rapport à la structuration même de l'existence, en fait, de fonctionnement des églises. Alors, d'un côté, il y a, en fait, des églises, des non-alignées, celles qui n'ont besoin d'aucune existence juridique. Et vous voyez, dans la plupart des cas, les églises sont créées sur base de visions divines. On vous dira un certain matin, quelque part où quelqu'un a mis 5-4 chaises, on vous dit que non, il a reçu une vision, et une vision qu'on ne sait pas en fait contester ou vérifier, parce que cette vision est l'apanage en fait de l'éternel Dieu, et qu'on ne voit pas, et qu'on ne sait pas demander réellement si la vision est réellement de lui, est membre de lui, ou de la personne qui crée l'église. Alors, je crois, d'un côté, il y a un problème aussi de l'existence des textes, en fait, l'application des textes, comme madame des États-Unis venait de le dire, un problème réel, en fait, sur l'application des lois qui existent dans ce pays. Et si vous observez la manière dont ces églises fonctionnent, vous sentez qu'il y a vraiment la jungle. Hein? Il y a le tapage nocturne, le tapage diurne, et sur une même avenue, vous pouvez compter une dizaine d'églises, sur une avenue peut-être de 50 parcelles ou 100 parcelles, où vous comptez une dizaine d'églises. Et les tapages qui sont faits là, ce sont des tapages de nature à rivaliser. C'est-à-dire la musique, le volume de musique doivent faire se surpasser les autres pour que les autres là s'entendent quelque part où les gens peuvent venir vers eux au lieu d'aller dans une église rivale. Alors,
oui, Maurice, je crois que restons un peu dans le pouvoir d'une manière interne dans les églises, parce que même aux États-Unis, si vous arrivez à Dallas, vous remarquerez que d'un pas à un autre, vous pouvez pas faire un mètre sans pour autant retrouver un church, comme on les appelle, les church des Anglicans ou encore d'autres confessions. En tout cas, il y en a plein. Moi, j'ai vécu, j'ai vu, et ça m'a même donné l'idée à repenser autrement. Donc, parce que nous, on avait pratiquement le même langage en disant que pourquoi il y a un mètre et l'église, et aux États-Unis, il y en a. C'est un problème d'organisation de la gestion de la cité, mais tout s'est fait dans l'ordre. Mais aujourd'hui, nous parlons de transfert de pouvoir, de responsabilité sociale. Pourquoi de père en fils, de mari à épouse, est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il faut une loi spécifique parce que les églises fonctionnent comme des asbelles, raison pour laquelle il y a trop de dérapages, trop de désordres. Pourquoi ne pas réglementer? Il ne faudrait pas que l'État revienne à mettre un peu de l'ordre dans les secteurs. Ça nous éviterait toutes ces tensions sociales où l'adjoint a claqué la porte, il est parti, il fait des déclarations dans différentes chaînes de télévision, à la télé, à la radio, donc du matin au soir, et tout ça au vu et au su de tout le monde.
Vous avez bien raison de le dire. En fait, la liberté en fait, de créer une église, de créer un parti politique, de créer une association sans but lucratif, ONG, je pense qu'elle est quand même reconnue en fait, à tous citoyens par la Constitution. Mais cela doit se faire dans le strict respect en fait, des lois existantes ou les lois qui règlent, en fait, qui régentent ces secteurs. Mais le problème qui se passe, je pense qu'il y a la raison pour laquelle j'ai interpellé en fait, les pouvoirs publics, l'État, les gouvernements, pour qu'il essaye un peu d'imposer la même, les mêmes conditions qui sont imposées par exemple aux partis politiques, aux associations sans but lucratif, aux églises, qui est un statut qui détermine en fait, qui règle par exemple la question de la succession. Même les scopéries qui se fait dans les églises, vous voyez par exemple les fonds qui sont gérés par des pasteurs, des dîmes. Et dis-moi, ça, c'est un patrimoine
voilà. Personne. Merci beaucoup, Maurice. Voilà, nous avons un sociologue qui nous a rejoint dans ce débat, Gauthier Moussengue. Il est de l'UNIKIN. Bonjour, Gauthier.
Bonjour, de la radio Café.
Vous êtes de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, et c'est que du centre d'études politiques à l'UNIKIN. Alors, vous avez mené une enquête par rapport à cette question que vous avez cité exploitation ou je ne sais pas trop, donc exploitation ou exploration des églises. Voilà, enquête et résultats. Et quelle a été votre conclusion par rapport aux enquêtes que vous avez menées?
Oui, en me référant à votre sujet, certains des orateurs ont peut-être répondu certaines choses. Si nous pouvons nous référer à la cause de ce problème de succession, nous dirons que ça part d'abord de la création de ces églises indépendantes. Ces églises sont créées par un individu, c'est une initiation d'un individu qui engage son argent, son énergie, ainsi de suite. Alors, c'est par après, il est obligé de prendre d'autres personnes parce que, pour se conformer à la loi congolaise. Mmh. Donc, parce que au niveau de l'organigramme de son église, il ne doit pas mettre seulement les membres de la famille, il a aussi besoin d'autres compétences. Ce qui fait qu'il est obligé de recruter d'autres personnes pour formaliser son église. Alors, par après, maintenant, il se pose un problème à la succession. Qu'est-ce qui se passe? L'initiateur, sachant bien que ce sont une chose privée, il a fait ses dépenses, il a dépensé ses énergies pour formaliser son institution. Après, il va chercher maintenant à la faire succéder par les membres de sa famille. Il voudra bien que les bénéficiaires de son institution soient aussi les membres de sa famille. Mais les autres qui sont à côté, donc les membres actifs qui ne sont pas de la famille, sachant aussi que cette institution a existé, a fonctionné grâce à nous, a eu des succès grâce à nous, grâce à notre compétence, parce que parmi les dirigeants, il y a les nouveaux disciples, il y a les diplômes, ainsi de suite, tout ça. Il sait donc qu'il a étudié, il a son diplôme, et c'est grâce à ça que cette église fonctionne. Et aussi, à l'heure maintenant, seront jaloux. Diront, mais comment son fils, sa femme peut succéder à ça, alors que nous aussi, nous avons dépensé notre énergie, nous avons aussi, c'est grâce à notre diplôme, à notre compétence, que l'église est viable. Alors, c'est ce qui pose trop de problèmes. Alors, certains pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ce que je vais dire ici, c'est le résultat de l'enquête.
De l'enquête, oui.
Certains pasteurs, ils modifient le statut sans que les membres de l'église le fassent.
Mmh.
Ils modifient le statut qui est publié dans le journal officiel. Ils mettent par exemple le nom de son fils. Ce que j'ai dit ici, c'est le cas d'une église. Je pense que les membres de l'église ne le savent pas. Moi, j'ai découvert ça d'après les petits. Quand je faisais mes enquêtes.
Oui, mais professeur, l'article 13 de la loi numéro 004/2001, portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif, stipule que les statuts des associations sans but lucratif ne peuvent être modifiés que par décision de la majorité des membres effectifs.
Oui, mais il fait le formalité seul en chambre, à la maison. Il fait tout ça, il écrit tout ça à la maison, et il met les signatures des gens, il écrit les noms des gens, finalement il envoie, il fait son rapport. Mais en réalité, cela ne s'est pas fait. Mais donc, pourquoi les membres de l'église aussi ne le savent pas.
Mmh.
Et je dis ici, c'est pas dit l'église. Je pense que les membres de l'église ne le savent pas. Donc, le pasteur s'il mourait aujourd'hui, c'est son propre fils qui va le succéder. J'ai trouvé ça dans les journaux officiels, mais je pense que les membres de l'église ne le savent pas.
Alors, aujourd'hui, c'est vrai, les débats tournent autour d'une loi spécifique. C'est vrai que les églises fonctionnent sous statut des ASBL, dans la plupart des cas. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut vraiment une loi spécifique portant sur le fonctionnement des églises, hein, pour, au fait, verrouiller certaines choses?
La loi existe. Cette loi que nous avons est bonne, mais elle n'est pas observée. Parce que beaucoup d'églises fonctionnent dans l'inégalité, dans une situation informelle. Donc, beaucoup d'églises ne sont pas éventuées par l'État, ne sont pas connues par l'État.
Mmh.
Quand vous passez à Kinshasa, vous n'allez pas passer une avenue sans église. Beaucoup de ces églises ne sont pas connues de l'État, mais elles fonctionnent normalement. Elles ne sont pas inquiétées parce qu'elles fonctionnent aussi à faveur de l'État. L'État trouve bien son compte parce que elle essaye d'amadouer la population pour que la population soit calme, ne se révolte pas, ainsi de suite. Alors, comme l'État trouve bien son compte dans le fonctionnement de cette église informelle, L'État congolais les laisse faire.
Et pourtant, il y avait déjà une décision l'année dernière, donc le 20 janvier 2014, pour en fait assainir les secteurs. Bon, où en est-on? Je crois que nous allons faire les débats très, très, très prochainement par rapport à cette question. Merci beaucoup, professeur Gauthier Moussengue. Vous êtes sociologue de la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques, des centres d'études politiques à l'UNIKIN. Merci beaucoup. On va prendre Kilma, qui est à Bandounouville. Kilma, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Capi, je vous remercie pour m'avoir accordé cette parole pour apporter ma modeste contribution. Je voulais très rapidement dire et prendre quelque chose. Je pense que le problème au Congo, c'est un problème d'homme. Nous, généralement au Congo, on n'a pas cette culture-là de succession, de voir au-delà. Si vous regardez les églises, les associations, les partis politiques, c'est comme si ce sont seulement les fondateurs qui ont droit. Alors, je pense, pour moi, pour parler de cette situation, il faudra déjà faire des solutions dès à présent par rapport aux églises. Par exemple, les églises ont des statuts, ils ont des règlements d'ordre intérieur. Si seulement on peut prendre, à partir du statut, déterminer clairement, après, en cas de décès, par exemple, nous savons pour la constitution du pays, par exemple, c'est bien prévu. Et pour les églises, pourquoi on ne peut pas prendre de telles dispositions? Par exemple, après, en cas de décès ou d'empêchement de celui qui est au poste, c'est un tel qui est capable, celui-ci qui est capable de faire ça. Si seulement on peut faire de telles assemblées pour savoir, ce serait mieux. Dès à présent, je pense que c'est ça que je voulais dire.
Oui, donc vous pensez qu'il faut que la loi renforce un peu certaines dispositions pour empêcher, vous voulez pas donner une marge de manœuvre à tous ceux qui, en fait, tripatrient les statuts ou qui les modifient à l'insu d'autres membres, comme l'a dit notre invité tout à l'heure, après avoir mené cette enquête autour des fonctionnements des églises en République démocratique du Congo, il a constaté qu'effectivement, il y a d'autres responsables des églises ou fondateurs qui sont plus malins et qui arrivent parfois à modifier le statut sans la majorité des membres effectifs. Et cette modification ou ce statut modifié est publié au journal officiel, donc on peut dire que l'État a accepté que cela soit fait ainsi. Mais voilà. Et pourtant, comme nous l'avons dit, il y a des conditionnalités pour arriver à être à la tête d'une organisation de ce genre, une organisation de l'Église. Donc, il faut être de moins âgé d'au moins 40 ans, avoir, disons, un document attestant qu'on a suivi avec succès et pendant 4 ans un enseignement religieux dans un institut de théologie du pays. Ben, cela n'est pas le cas. On va prendre Jacques qui est à ouvrir. Jacques, bonjour. Jacques, vous êtes avec nous?
Oui, c'est Jacques Gaounde à partir d'Ouvira au Sud Kivu.
Vous avez la parole, Jacques.
Je pense que j'ai très bien abordé dans le sens que mon confrère Eugène avait abordé. Parce que le regard qu'il faut porter sur les cas de transfert de ses responsabilités, moi je me borne surtout sur les églises. Hein. Parce que d'abord il fallait comprendre le système organisationnel de chaque église. Vous savez, quand il y a le système épiscopal, mais il n'y a pas trop de désordre, parce que la structure est bien connue. Il y a l'évêque, il y a le pasteur, il y a les évangélistes, il y a des anciens. Et quand l'évêque meurt, on sait qu'il y a un synode qui doit s'organiser, celui qui répond les critères a le droit d'être évêque dans les églises traditionnelles, et surtout dans les églises protestantes. Ah bon? Et quand vous allez dans le système, par exemple, presbytérien, où les anciens se décident de pasteur mère, on dit non, les anciens se réunissent, bien réunis dans l'église, on dit tel peut relever les postes. Mais quand vous arrivez maintenant dans les systèmes congrégationnistes, là où sont placées toutes les églises de réveil, là il y a un désordre vraiment que l'État aussi contribue. Parce que pour ce qui concerne les églises, par exemple, qui ont le système épiscopal, notamment catholique, protestante, traditionnel,
Oui, là-bas, le problème ne se pose pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réglementer les choses? Parce que vous pensez qu'il va falloir proposer des lois spécifiques.
que les églises sortent un peu, en fait ils fonctionnent comme les asbestes, mais qu'il y ait quand même une loi spécifique pour régenter ces églises que vous avez classées dans la catégorie des congrégationnistes.
Ah oui. Je suis d'accord avec cette
proposition.
Pourquoi je dis que l'État aussi contribue dans cette...
Donc l'État doit s'impliquer pour mettre un peu de l'ombre. Merci beaucoup, Jacques. On va prendre le dernier invité, professeur Stéphane Dita. Vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, Tati.
Voilà, comment on peut vous présenter? Vous êtes un observateur de la société par rapport à cette question?
Tout à fait.
Parce que vous avez plusieurs casquettes. C'est démographe, et sans doute. Mais voilà, pour les cas d'espèce, vous avez observé aussi ces faits de société. Alors, comment vous réagissez?
Bon, je pense que nous devons faire attention qu'on ne cherche pas une chose, juste au contraire. Nous voulons, dans une démocratie comme la nôtre au Congo, avoir la séparation de l'État et des églises. Nous ne voulons pas que l'État puisse commencer à diriger nos églises. Ce serait un danger sérieux. Qu'à ça ne tienne, il y a certainement, en tant que membre d'un État, nous devons être soumis à l'État, parce que toute autorité vient de Dieu. Là, donc, il faut que les lois soient respectées. S'agissant de la question qui est posée, je pense qu'il y en a multiples, mais la question qu'on veut savoir est comment est-ce que l'Église doit se gérer en tant qu'administration qui doit succéder. Je pense qu'il y a deux formules les plus utilisées, hormis ce qui est classique théologique. Il y a une gestion par équipe ou une gestion par comité. Quand c'est par comité, on pense que tous les membres sont vus comme des frères et sœurs, et que là, on arrive à voir qui est l'enfant de qui, l'enfant de l'autre, parce que c'est Christ qui est la tête de l'Église, tous sont des serviteurs, ce n'est pas une position qu'on va avoir dans ce sens-là. Quand c'est une équipe, alors on pense que, mais ici, il y a quand même, chacun apporte sa contribution spécifique dans un procès de conduite. Donc, ici, nous ne voulons pas demander que le Congo devienne un pays où l'État va commencer à légiférer la moralité, mais à ce moment aussi que l'État garde sa neutralité et que les gens respectent les lois du pays. Alors, est-ce que le père et le fils peuvent succéder à l'autre? Je pense que quand nous avons Billy Graham Association, et quand Billy Graham est parti, c'est le fils qui a la position. Mais ce n'est pas la règle ordinaire, parce que en 1 Timothée chapitre 3 verset 1er, les chrétiens sont vus comme des frères et sœurs, donc ils se respectent dans le sens-là, et ils vont faire ce qui est promis. Je pense que dans notre pays, il faut que nous respections les lois, parce qu'il y a des problèmes dans les églises, que ce soit les églises protestantes orthodoxes. Question de succession, toujours un problème. On tripote les statuts, mais souvent aussi l'État intervient pour parfois essayer. Voilà, c'est parce que nous avons eu l'église kimbanguiste, c'est parce que nous avons eu l'église de la CAC, et les autres, pour nous, on a décidé que c'est là. Donc, je pense qu'ici, on a fait la part des choses. Nous devons laisser que les églises soient ce qu'elles sont, et nous sommes des frères et sœurs dans ce sens-là, et il ne faut pas qu'on puisse appeler l'État à légiférer notre moralité. Mais en fait, l'État aussi doit permettre que les lois ne soient pas abusées. Donc, quand on va utiliser, par exemple, certaines personnes qui vont abuser de leur capacité pour extorquer soit de l'argent, soit manipuler leurs membres, c'est là c'est un problème réel. Là, je pense qu'il y a des lois qui peuvent être utilisées quand il y a usage des faiblesses. Et le cas de Bettencourt en France, qui est maintenant intéressant pour tout le monde de voir. Mais la question des successions est un problème quand nous apprenons la démocratie. Mais je pense que nous ne croyons pas que le problème de ce pays, c'est les églises. Je pense que le problème de ce pays n'est pas les églises, mais c'est plutôt, il n'y a plus maintenant des bars et des quoi dans tous les coins. Il n'y a plus de place où on peut avoir la famille sans qu'on ait des gens qui font des...
Voilà, professeur Stéphane, nous vous gardons juste pour une minute avant de conclure. Le temps d'écouter cet auditeur qui vient de nous rejoindre rapidement. Présent, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Oui, rapidement, 30 secondes, on n'a plus assez de temps. 30 secondes.
Ok,
Juste, je vais juste faire une quelques recommandations à nos églises, à nos églises qui n'ont pas cette organisation concernant la succession. C'est mieux d'abord que tous les membres, toutes les responsabilités que les membres de l'église sont en train d'assumer doivent être enregistrées et que l'État doit connaître. D'où, à partir de leur statut, ils peuvent savoir que dès que nous avons autant de personnes qui chapeautent les responsabilités dans l'église, en cas de fait, en cas de manque de présence de telle personne qui chapeaute l'église, telle ou telle autre doit assumer. Cette identification permettra nécessairement à ce que leur statut soit nécessairement connu de tous et que tout ce qu'ils peuvent faire puisse être connu aussi par l'État. Puisqu'on ne peut pas seulement dire à mal contre notre État, les églises ne sont pas organisées dans leur sein. D'où qu'ils s'identifient, qu'ils aident l'État à pouvoir connaître ce qui se passe au sein de leurs églises concernant la hiérarchie, concernant la fonctionnalité.
Merci beaucoup, Trésor. Merci beaucoup. Professeur Stéphane, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il faut aujourd'hui une loi spécifique pour
échanger les secteurs? Les lois sont bonnes, c'est qu'il faut les appliquer, mais aussi comprendre que nous cherchons une démocratie et nous ne voulons pas que l'État commence à légiférer la moralité. Mais quand même, il y a un problème de société aujourd'hui où ce n'est pas seulement les églises qui font les tapages nocturnes. Je pense qu'il y a quand même des problèmes qui se passent. Il faut que nos enfants, maintenant, soient en difficulté. Il n'y a pas une place qui va habiter à Kinshasa ou pas dans la République où on ne vend pas la bière dans notre maison. Et les noms qu'on donne aux bières laissent parfois désirer. Donc, il faut quand même savoir que l'Église n'est pas le seul problème de ce pays. Eh bien, quand il y a des successions, on doit rester parce que la Bible a défini des critères très clairs pour qui doit faire quelle tâche, qui doit faire quoi, et ainsi de suite. Donc, il faut que les Églises rentrent au fondamental ce qui est la Bible. Et là, c'est Christ qui est la tête de l'Église. Et quand on est soumis à Christ, à mon avis, à ce moment-là, toutes autres choses, les ambitions tombent. Et on commence à voir la grandeur des Christ et l'expansion de l'Église.
Voilà, merci beaucoup, professeur Stéphane Invita, d'avoir accepté notre invitation, comme Gauthier Moussengue Bwango, de la faculté des sciences sociales, qui vous avait précédé, et aussi docteur Galassi Agrey, qui est le responsable de l'église Louange, qui tous vous avez accepté donc d'être nos invités pour cette thématique. Donc nous prenons rendez-vous avec vous demain, chers auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Radio Capi. Merci également à Alain Goy qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé et par Pierrot et la Régie et Julie César Bourgonda, une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Ngembo. À demain.